Lorsque vous mangez, vous avez entouré cette activité d'une sophistication telle que vous ne ressemblez plus aux animaux. À la base, c'est la même chose que chez l'animal. Mais lors des repas, votre maintien à table, toute la tradition et l'étiquette dont vous avez entouré la nourriture, tout cela ne sert qu'à vous différencier de l'animal. Celui-ci aime manger seul. Aussi, chaque société a-t-elle enfoncé dans le mental des individus l'idée que manger seul n'est pas bien. Il faut partager, manger en famille, manger avec des amis, avec des invités. Invités, amis, famille, cela n'intéresse aucun animal. Lorsqu'un animal est en train de manger, il ne veut pas que quelqu'un s'approche. Il cherche l'isolement. Si un homme préfère manger seul, vous direz de lui qu'il ressemble à un animal, qu'il ne veut pas partager. Sa façon de manger est naturelle, non sophistiquée. Nous avons entouré la nourriture d'une telle sophistication que la faim est devenue secondaire et le goût le plus important. Aucun animal ne se préoccupe du goût. La faim est une nécessité fondamentale. Lorsqu'elle est assouvie, l'animal est satisfait, mais pas l'homme. Comme si la faim n'était pas essentielle. L'essentiel est autre chose. Le goût importe davantage. Les bonnes manières, la façon de manger importe plus. Partout autour de lui, l'homme a fabriqué son propre monde artificiel. Les animaux sont nus, c'est pourquoi nous ne voulons pas être nus. Et si quelqu'un se promène nu, il choque nos mœurs civilisées. Il les agresse à la base. Quand il est habillé, l'homme n'est pas un animal. Avec ses bonnes manières à table, l'homme n'est pas un animal. Grâce au langage, à la moralité, à la philosophie, à la religion, l'homme n'est pas un animal. La chose la plus religieuse est d'aller prier dans une église ou un temple. Aucun animal ne va à l'église pour prier. C'est spécifiquement humain. Aller prier dans une église, un temple, constitue la preuve absolue que vous êtes différent. Que vous n'êtes pas un animal. Mais le sexe est une activité animale. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la manière dont vous le cachez ou ce dont vous l'enveloppez, à sa base, le fait reste animal. Et lorsque vous vous livrez à l'acte sexuel, vous ressemblez à un animal. Nombreux sont ceux qui, pour cette raison, ne peuvent pas prendre plaisir au sexe. Ils ne peuvent devenir tout à fait des animaux. Leur ego ne le leur permettrait pas. Ego et sexe, tout le conflit est donc là, le sexe contre l'ego. Plus quelqu'un est égoïste, plus il est opposé au sexe. Moins il est égoïste, plus il est concerné par le sexe. Mais le moins égoïste lui-même ressent, moins peut-être, mais ressent néanmoins, quelque chose qui le gêne, une culpabilité. Et lorsque l'on plonge profondément dans la sexualité, l'ego disparaît. Mais lorsque vient l'instant où va disparaître l'ego, la peur vous saisit. C'est pourquoi, lorsque l'on fait l'amour, lorsque l'on est dans le sexuel, ce n'est ni profond ni vrai. On ne fait que semblant, superficiellement, de faire l'amour. Car si vous faites réellement l'amour, tout ce que vous aurez de civilisé devra tomber. Il vous faudra mettre votre mental de côté, votre religion, votre philosophie, tout. Vous aurez soudain le sentiment qu'un animal sauvage a surgi en vous. un rugissement montra en vous. Il est possible que vous vous mettiez vraiment à rugir comme une bête sauvage, à crier, à pousser des gémissements. Et si vous vous laissez aller, le langage même disparaîtra. Vous émettrez des sons, tout comme le font les oiseaux et les autres animaux. En un instant, un million d'années d'évolution disparaissent. Vous vous comportez à nouveau comme un animal dans un monde sauvage. La peur est là, et à cause de cette peur, aimer humainement est devenu presque impossible. Cette peur est réelle, car vous devenez presque fou si vous perdez votre ego. Vous devenez sauvage, et tout peut dès lors arriver. La suppression semble dès lors le moyen le plus facile d'éviter tout cela. Supprimez le sexe, ou ne le libérez que dans la mesure où il ne vous met pas en danger. N'en laissez qu'une partie qu'on peut toujours contrôler. Et vous vivez en vous contrôlant, en vous manipulant. Vous vous laissez aller jusqu'à un certain point, ensuite vous réprimez. Et puis vous vous repliez sur vous-même et vous vous fermez. La suppression est comme une protection, une sauvegarde, une mesure de sécurité. Cette sécurité, les religions en ont usé. Elles ont exploité cette peur du sexe et l'ont accrue en vous. Elles vous font intérieurement trembler devant lui. Elles ont fait du sexe le péché fondamental, et vous disent « Si le sexe ne disparaît pas, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. » Elles ont raison en un sens, mais pourtant elles se trompent. Moi aussi, je vous dis que si le sexe ne disparaît pas, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Mais le sexe ne disparaît que lorsque vous l'avez totalement accepté, non pas réprimé, mais transformé. Ce n'est guère difficile de réprimer, mais cela vous en coûte vraiment, car toute votre énergie est en proie aux divisions et aux luttes, et vous gaspillez toute votre vie. De toutes les énergies, la plus vitale est l'énergie sexuelle. C'est, je vous le dis, la seule énergie que vous possédez. Ne luttez pas contre elle. Ce serait une perte d'énergie et de temps. Transformez-la plutôt. Mais comment faire? Comment la transmuter? Si vous avez compris votre peur de perdre le contrôle, vous pouvez alors saisir la clé. Je vous enseigne un nouveau contrôle, celui du soi observateur. Non pas le contrôle d'un mental manipulateur, mais celui du soi divin qui observe. Il est si naturel que vous n'avez jamais le sentiment de contrôler. Entrez dans la sexualité, dans son processus entier, en étant un simple témoin, sans jamais devenir inconscient. Devenez sauvage, mais pas inconscient. Avec le témoin intérieur, devenez le témoin de la nature en vous. Il n'y aura ainsi aucun danger à vous laisser aller. La sauvagerie est alors belle et vivante. Poursuivons la voie ouverte par Osho. L'animalité en vous est le gardien du seuil, le sphinx qui bloque l'accès à l'amour de notre soi divin. Si nous la libérons, en dépassant la peur de voir notre ego tomber, cette victoire ouvrira le passage et beaucoup d'énergie affluera au cœur dans notre méditation. Car l'ego a son siège dans l'intellect, qui vole littéralement l'énergie du cœur. enfin nous pourrons nous aimer. Nous nous sentirons réconciliés avec tout notre être, alors qu'auparavant nous étions divisés. Cela peut demander du temps, car l'ego se sentant menacé voudra survivre. C'est là que se place la foi, la confiance en notre guide intérieur, qui lui seul gardera le contrôle. Si nous continuons de méditer régulièrement, la sexualité sera plus rare, car notre animalité réconciliée se laissera transmuter dans l'amour ressenti. Avant de méditer, demandons à notre animalité de bien vouloir remonter au cœur. Notre être sera rempli de joie. Nous ressentirons une liberté merveilleuse en provenance de notre soi divin. Tous les érudits, religieux endoctrinés et intellectuels de la spiritualité ne peuvent dépasser cette expérience. J'ai moi-même dû faire ce travail, non sans rire partagé et sans oublier la tendresse. Lorsque j'ai commencé à libérer mon animalité, il y a eu ce rêve où elle sortait d'une boîte qui l'enfermait, et son apparence était alors maigre et repoussante. Cette libération sera ainsi confirmée par des rêves conscientisés. Bien sûr, il est nécessaire parallèlement de changer son alimentation sans frustration, progressivement, et de se protéger des énergies négatives et plans psychiques sexuels dans la basse atmosphère par la pratique ressentie de la flamme violette. André Riviera pour contemplativeart.com